Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La levée des gardes à vue ce matin dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina il y a 6 mois. Trois personnes étaient entendues depuis hier matin à Strasbourg. Nous serons sur place. Vers un nouveau tour de vis concernant l'assurance chômage. Il en sera question ce matin lors d'un séminaire gouvernemental au lendemain de l'annonce du déficit plus important que prévu. Et une info RMC, les prix du chocolat en hausse de 5% sur un an juste avant Pâques selon une enquête de l'UFC Que Choisir.
Et mon invité à 8h30, ce sera Dominique Schelcher, le PDG des magasins U, pour le face-à-face à la veille de Pâques, donc, et alors que les prix commencent tout juste, vous l'entendrez tout juste, à baisser dans les rayons. C'est l'information de la matinée. Les gardes à vue sont levés à Strasbourg.
Oui, un homme et un couple étaient entendus depuis hier matin dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina, âgée de 15 ans, il y a 6 mois. Lucille Pascanet, vous êtes en direct de Strasbourg, donc pour RMC ce matin. Dites-nous pourquoi ces gardes à vue sont levés.
Eh bien, si les trois gardes à vue ont été levés, c'est parce que les enquêteurs n'ont pas relevé d'éléments incriminants à l'encontre de ces trois personnes. Leurs explications en audition ont convaincu les enquêteurs. Elles étaient entendues depuis hier par les gendarmes parce qu'après 6 mois d'enquête, de vérification et de recoupement d'indices matériels, ils avaient remarqué des incohérences dans leur récit, des détails qui ne collaient pas avec leur déclaration initiale. Les juges avaient donc décidé de placer en garde à vue ces trois personnes qui vivent dans la région. Un homme interpellé hier matin chez lui et un couple convoqué à la gendarmerie. L'objectif des enquêteurs et des juges, c'était de tirer au clair ces incohérences, de fermer des portes. C'est maintenant chose faite avec la fin des auditions cette nuit. Depuis 6 mois, les gendarmes ont longuement analysé, recoupé toutes les données téléphoniques du secteur, les téléphones qui bornaient dans la zone au moment de la disparition de Lina, et aussi étudier les rares enregistrements de vidéosurveillance.
Il est 8h02 sur RMC, réduire les dépenses. Voilà l'objectif du gouvernement. Maintenant qu'on sait que le déficit est plus important que prévu à 5,5% du PIB l'année dernière, l'heure est à la rigueur, c'est ce que répète le Premier ministre Gabriel Attal, qui dirigera un séminaire gouvernemental à ce sujet ce matin. Il sera question, Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, de la réforme de l'assurance chômage, et il faut donc s'attendre à un nouveau tour de vis.
Oui, car Gabriel Attal a fait du travail et de l'assurance chômage ses marques de fabrique. Ceux qui travaillent doivent toujours gagner plus que ceux qui ne travaillent pas, a insisté encore hier soir Matignon. Plus facile à dire qu'à faire, en réalité, car la main est actuellement dans le camp des syndicats, en négociation d'ailleurs jusqu'en avril, mais en cas d'accord à minima, un ministre de poids prévient, nous récupérons la gestion de l'assurance chômage. Un nouveau coup de pression au moment où le gouvernement affiche de plus en plus ses intentions, réduire les droits des seniors, mais aussi la durée d'indemnisation pour l'ensemble des chômeurs. Elle est aujourd'hui de 18 mois, un sujet loin de faire l'unanimité dans la majorité. Cela ne rapporte pas d'argent et rien avant un an, explique un ancien ministre. Le problème, c'est que les dettes s'accumulent et que Gabriel Attal n'a pas d'autre choix que d'envoyer des signaux au marché, reconnaissait hier un proche du chef de l'État.
En direct pour RMC, Jérémy Trottin, et dans ce contexte économique, il ne faudra pas laisser une miette des chocolats de Pâques. Cette année, le cours du cacao n'a jamais été aussi haut, hein, 10 000 dollars la tonne. Conséquence, dans les chocolateries comme dans les supermarchés d'ailleurs, les prix des chocolats sont en hausse de 5% cette année. Selon une enquête de l'UFC Que Choisir qu'on vous révèle ce matin sur RMC, c'est quasiment deux fois plus que l'inflation en ce moment, Lucas Laubert.
À la sortie du supermarché, Marie, retraitée, a dans son sac des chocolats pour ses petits-enfants. Cette année, ça coûte plus cher, alors elle s'adapte.
On ne se laisse pas avoir, on n'est pas des pigeons quand même. Hein. Donc on fait attention, on en achète moins, mais on achète du bon.
Mais tout le monde n'est pas prêt à faire des sacrifices. Pour Alexandra, le chocolat, c'est sacré, elle ne regarde pas les prix.
J'ai des œillères. Le chocolat, c'est trop bon. Je ne regarde pas, j'avoue.
À côté d'elle, son amie Sandra est plus sérieuse, mais elle ne paie pas moins cher pour autant.
Moi, je regarde justement le prix au kilo. Et des fois, passe du simple au triple, facile. Puis en plus, on a des enfants, donc il faut au moins qu'il y ait un Kinder dans le lot, sinon ça fait la tronche.
Et ça, les industriels l'ont bien compris. Pour Noé Bauduin, il est chargé d'études à l'UFC Que Choisir et a travaillé sur la hausse des prix du chocolat.
On sait que quand les enfants ont envie d'un chocolat, Les parents vont l'acheter même si en fait ils savent que c'est vachement cher pour ce que c'est au final. On va dire le type de chocolat et notamment à destination des enfants où les industriels poussent leur prix.
Une solution quand même pour payer moins cher, attendre que Pâques soit passé. Une semaine après, c'est 8% de moins en moyenne.
C'est une information RMC ce matin. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour homicide involontaire et tromperie dans l'affaire des fluoroquines, antibiotiques aux effets indésirables graves utilisés depuis plus de 30 ans pour traiter certaines infections bactériennes. Une vingtaine de plaintes ont été déposées. Il n'y a quasiment plus aucun espoir de retrouver les survivants ce matin aux États-Unis après l'incroyable effondrement du pont de Baltimore percuté par un cargo victime d'une avarie électrique. C'était hier matin. Les secours ont suspendu les recherches hier soir à cause de la météo. Ils s'attendent à un bilan de 6 morts. Romain Hougle, en fait, ce sont les 6 ouvriers qui étaient sur le pont et qui ont donné l'alerte en voyant le bateau à la dérive dans le port.
Oui, il n'y a ce matin quasiment plus aucune chance de retrouver vivants ces 6 ouvriers. Un terrible accident, selon les mots du président Joe Biden, dont le bilan aurait pu être encore pire si le navire n'avait pas réussi à lancer un appel de détresse relayé par les opérateurs du pont sur la fréquence des secours. Retenez le trafic en amont du pont. Un navire approche. Son équipage a perdu sa direction. Si vous pouvez stopper le trafic pour être sûr que personne ne soit sur le pont.
Le pont tout entier vient de s'effondrer. Venez, venez qui que ce soit. Tout le pont est tombé.
Selon les premiers éléments de l'enquête, ce porte-conteneurs aurait subi une perte de propulsion, le rendant incontrôlable avant qu'il ne dévide sa trajectoire et ne s'encastre dans l'un des piliers du pont. Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, semble écarter toute piste intentionnelle.
Nous enquêtons toujours sur ce qui s'est passé, mais nous recueillons rapidement des détails. L'enquête préliminaire fait état d'un accident. Nous n'avons vu aucune preuve crédible d'une attaque terroriste.
Ce navire battant sous pavillon singapourien a pourtant passé avec succès 2 inspections l'année dernière, selon les autorités portuaires de Singapour.
Rendez-vous mi-mai pour l'équipe de France de football, les Bleus. Il y aura l'annonce à ce moment-là, l'annonce de la liste pour des joueurs qui participeront à l'Euro du mois de juin. Didier Deschamps était moyennement convaincu par la performance des Bleus qui ont battu le Chili 3-2 en amical hier soir à Marseille. On est à moins de 4 mois ce matin des Jeux Olympiques et on va revoir aujourd'hui le nageur Léon Marchand, star de la natation, star annoncé tout simplement des prochains JO qui se préparent aux États-Unis. Léon Marchand, il dispute à partir d'aujourd'hui les prestigieuses finales du championnat universitaire à Indianapolis. Julien Richard, vous êtes sur place pour RMC pour cette compétition atypique à laquelle va participer le Français.
C'est un drôle de bassin, 25 yards, soit 22,86 m, une compétition par équipe où chaque nageur marque des points pour son université.
C'est une compétition incroyable.
Qui ne ressemble à rien de ce que l'on connaît en France.
Beaucoup d'ambiance, beaucoup d'énergie. En fait, je nage pas que pour moi, je nage vraiment pour quelque chose de plus grand, quoi. Je nage pour l'équipe.
Bonnet de bain floqué du Trident de son université d'Arizona State, c'est la 3e année consécutive que Léon Marchand dispute ses finales universitaires. Son entraîneur en France, Nicolas Castel.
C'est quelque chose qui lui a bien réussi les années précédentes. Donc il a gardé un peu le même schéma, le même plan. C'est s'amuser sur la première partie de saison, tout en progressant bien sûr. Mais s'amuser, c'est aussi performer.
Ne surtout rien changer dans une année si particulière.
J'aurais pu passer professionnel pour justement être plus focus sur les Jeux. Changer un peu mon année pour essayer d'être plus préparé pour les Jeux. Mais j'ai décidé de refaire les NCAA parce que justement, ça m'occupe l'esprit. C'est hyper stimulant pour moi. Donc Paris, c'est toujours dans la tête forcément, mais ça s'éloigne un peu grâce à toutes ces compétitions.
Avant Paris, donc Léon Marchand rêve d'un premier sacre historique pour son université d'Arizona State.
Et puis une dernière info, tiens, on l'apprend ce matin, la flamme olympique, la vasque olympique qui accueillera la flamme pendant les JO sera installée au Jardin des Tuileries à Paris, entre le Louvre et la Concorde. Pour ceux qui ne connaissent pas la capitale, c'est un endroit qui sera accessible au public. C'est une décision qui a été prise par les organisateurs et la mairie de Paris. Donc concernant cette flamme olympique qui arrivera en France début mai, le 8 précisément, depuis Marseille, où elle commencera son périple à travers le pays.
La ministre des Sports qui était là la semaine dernière n'avait pas voulu nous dire ce qu'elle serait. Mais ça y est, on a l'info, grâce à vous, Quentin. Merci pour ce journal, il est 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Ici, c'est pas le Far West. Voilà ce que dit le préfet des Alpes-Maritimes après de nouvelles violences au quartier des Moulins à Nice. Sauf que quand on regarde, ça y ressemble beaucoup. La réponse donc de Hugues Moutou, le préfet des Alpes-Maritimes, dans un instant. Qui est impliqué dans ces violences? Comment y mettre fin? À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h12 et on va partir à Nice.
Le parti pris.
Pour vous rejoindre, Hugues Moutou, bonjour.
Bonjour,
vous êtes le préfet des Alpes-Maritimes et vous étiez hier à Nice dans le quartier des Moulins qui a été une nouvelle fois le théâtre de violence. Une violence sur fond de trafic de drogue, d'affrontements entre bandes rivales. D'abord, j'aimerais comprendre avec vous qui est impliqué, de quoi il s'agit. On a l'impression qu'on a mis ensemble toutes les difficultés qui peuvent concerner les quartiers avec des jeunes et des bandes rivales, avec du trafic de drogue, avec de la petite délinquance, et tout ça se mélange.
On a un climat de forte tension en ce moment au Moulin et depuis quelques mois. Hier, il y a eu des affrontements entre des jeunes du quartier et des étrangers en situation irrégulière. Alors l'origine précise, c'est un méli-mélo, des expéditions punitives, effectivement sur fond de trafic de stupéfiants et parfois de différents d'ordre privé. On parle d'agressions de jeunes femmes du quartier par des mineurs non accompagnés. Donc il y a eu des violences, des interpellations, naturellement hier. Mais à la rigueur, peu importe de savoir qui a commencé, qui est responsable et l'origine exacte des conflits de la journée d'hier. Le plus important, c'est de savoir que depuis plusieurs mois, on mène sur le terrain une guerre impitoyable aux dealers et que cela déstabilise les trafics. Et vous savez, Apolline, à la guerre, il faut avoir les idées claires, il faut des idées simples et surtout s'y tenir. Alors moi, mes idées, elles sont très claires et elles sont très simples. On vient, on investit le terrain, on interpelle et ensuite on expulse. Quelques chiffres pour illustrer ces idées simples.
Oui.
On vient, en l'espace des 12 derniers mois, on a procédé à 400 opérations dans le quartier des Moulins, qui est un quartier à la périphérie ouest de la ville de Nice. 400 opérations de police. On vient. On interpelle. On interpelle. Dans les 12 derniers mois, on a interpellé 1000 trafiquants de drogue au Moulin. La plupart de ces trafiquants qui ont été interpellés et écroués sont des étrangers en situation irrégulière. Voilà pourquoi la troisième disposition essentielle du plan, c'est l'expulsion. Et depuis le mois de janvier, on est déjà à 92 expulsions, les trois quarts de ces expulsés étant des délinquants. Voilà, donc les idées sont simples, on vient, on interpelle.
On a compris la méthode, Hugues Moutou. D'abord un mot quand même, parce que vous avez évoqué la difficulté aussi avec des mineurs non accompagnés que vous ne pouvez pas renvoyer eux.
Alors, on ne peut pas les renvoyer, mais lorsqu'ils commettent des exactions, eh bien, on les défère après interpellation à la justice. Et on compte sur la justice, naturellement, pour les condamner. Donc, l'important, c'est l'occupation du terrain.
Oui, vraiment, mais la difficulté, j'entends parfaitement votre volonté d'efficacité, Hugues Moutou. Ce qu'on comprend donc, c'est qu'au fond, ce qu'il se passe en ce moment au quartier du Moulin, c'est une forme de soubresaut, parce que précisément, vous avez mis un grand coup de pied dans la fourmilière, il y a ces résurgences, peut-être de poches de résistance, parce qu'il y a, ça a créé toute cette agitation, ça a en quelque sorte agité tout ce Landerneau. Sauf que pendant ce temps-là, il y a quand même les habitants qui eux subissent cela et ont parfois le sentiment qu'ils vont devoir se faire justice eux-mêmes. Je voudrais que vous écoutiez cet habitant au micro d'RMC hier.
Donc aujourd'hui on a compris que on va se faire justice nous-mêmes. C'est malheureux, mais quitte à y laisser des plumes, mais tout ça on va l'enrayer
nous-mêmes. Qu'est-ce que vous leur dites?
Moi je leur ai dit hier, j'ai été les voir, en République c'est la justice qui rend des comptes et qui condamne. Ce ne sont pas des simples citoyens. Il n'y a pas de vengeance privée. Donc, moi, j'invite ces citoyens à porter plainte, ce qu'ils ne font pas. Nous, on viendra sur place interpeller les auteurs des possibles agressions. On les déférera à la justice et ils seront condamnés. Nous sommes dans un état de droit. C'est la définition de la civilisation par rapport à la barbarie. L'ordre contre le désordre.
Mais la difficulté, c'est que vous le dites, parfois ils ne portent pas plainte, parfois par crainte, tout simplement, peur de représailles. D'autres fois aussi parce que, ils sont enfermés chez eux. Il le racontait dans ce reportage tout à l'heure. Derrière les volets clos de leur appartement, ils n'ouvrent même plus les volets de peur, parfois même de se prendre des balles perdues.
Alors il y a eu des
règlements
de compte.
Vous entendez cette angoisse?
Bien sûr, bien évidemment, on l'entend et c'est pour ça qu'on se déploie tous les jours. Les CRS sont présents tous les jours et le quartier des Moulins n'est pas un quartier déshérité. L'État, la ville investit énormément, la politique de la ville investit des millions. On dépense des millions chaque année pour le bien-être de ses habitants. Après, la guerre contre la drogue et les dealers, c'est une guerre difficile, c'est une guerre longue. Nous n'avons pas de baguette magique. Ceux qui pensent que d'un claquement de doigts, on peut résoudre tous les problèmes sont des menteurs. Donc nous, on est sur le terrain, on se déploie, on interpelle, on expulse. Et je vais vous dire quelque chose, la défaite n'est pas une option. On est là pour gagner la guerre contre la drogue.
Et vous la gagnerez, et c'est ce que vous dites ce matin donc aux habitants qui doivent juste être peut-être patients, quoi.
Et qui
enfin,
comptent
c'est
sur
dur
nous.
À entendre. Hein.
Et qui compte sur nous. Et L'État est là pour les protéger.
Et qui compte sur vous. Merci Hugues Moutou, monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, d'avoir pris le temps donc ce matin sur RMC. Vous avez deux fois utilisé le mot guerre. Et effectivement, on entend en tout cas votre plan de bataille. Il est 8h18.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Arnaud de Manche,
ce matin, on va parler de trucs joyeux.
Ah.
On va parler un peu d'argent.
Ah.
Car aux États-Unis, les loteries du Powerball et du Mega Million atteignent 2 milliards de gains cette semaine. Alors, dès qu'il a vu l'info, Grégory, notre directeur d'antenne, aussi des jeux, a appelé la direction en disant « Les gars, faut pas qu'on ait l'air d'être des petits joueurs. » Faut qu'on mette aussi 2 milliards dans le Powerball du méga coffre RMC de la Golden Roue des Millions.
RMC.
On y est. Alors la négociation a été âpre, il a failli réussir. Dommage, mais il y a quand même 50 000 euros. 50 000 à gagner dans le coffre vendredi. Guettez l'alerte. Bruno Le Maire, il a dû s'acheter 400 tickets de Powerball méga million, là, parce que vous avez vu, l'INSEE a communiqué hier le chiffre du déficit de la France. Et surprise, il n'est pas bon. 154 milliards d'euros de découvert. On peut avoir ça, je ne savais même pas. Nous, on prend 20 balles d'agio dès qu'on a 2 euros en moins sur notre compte. Et Bruno Le Maire, il avait tablé sur 4,9%. Et bim, 5,5. On est fauché. Voilà, il y a 4 ans, on apprenait à faire des masques avec nos vieux slips. Là, on va devoir les recoudre pour refaire des slips. Il n'y a pas de petites économies. Emmanuel Macron, c'était censé être le Mozart de la finance. En fait, c'est le Francky Vincent de la comptabilité. C'est le Francis Lalanne de l'économie. C'est le Richard Klederman du budget. On parle de passer en économie de guerre, mais on a guerre d'économie, en fait. C'est mignon, hein, un peu de poésie. Ça va être compliqué de financer le pays. Bruno Le Maire, il va aller emprunter sur les marchés avec un fichu sur la tête.
S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, pays de moi malade, s'il vous plaît, pour manger. Pays très difficile, économie française, malade, compliqué la vie.
Ça va être affreux, on va avoir l'air ridicule.
François Bayrou a été réélu, tiens, à la tête du Modem. 88% des voix.
Ouais, 88,1, joli score. Enfin, ça paraît beaucoup, mais il était le seul candidat. Ça veut quand même dire qu'il y a 12% des adhérents qui ont préféré voter blanc, voter rien, voter pour leur chat, n'importe quoi plutôt que de voter Bayrou. Enfin, la majorité des adhérents se sont dit que Bayrou, c'était effectivement le meilleur pour se faire humilier par Macron. Il y avait bien Marc Fesneau qui proposait de se faire ignorer par le chef de l'État. C'était une autre ligne politique. Ou Geneviève Darrieussecq qui proposait de se faire oublier par le président. Bon, mais c'est Bayrou qui était meilleur à ce jeu-là. Le congrès du Modem avait lieu salle du jeu de paume à Blois. Mmh. C'est logique. Jeu de paume, tu paume. Enfin, c'est comme le Modem aux élections. J'en reviens pas d'ailleurs que ce parti s'appelle encore le Modem. Qui utilise encore un Modem? C'est vieux un Modem. C'est ça un Modem. Je suis sûr qu'il y a au moins un gars chez eux qui se demande s'il faudrait pas changer peut-être le nom du parti minimum en ADSL, l'Association des démocrates sociaux et libéraux, voire un plus moderne qui dit non, faut qu'on s'appelle la fibre optique, la fédération interrégionale des bureaux des représentants étatiques d'obédience politique tournée vers les interrogations et questions sur l'Union européenne. Et vous pouviez tout vérifier au ralenti, toutes les lettres elles correspondent. Hein. Demandez la VAR, ça marche.
Des collèges et des lycées, Arnaud, sont visés par des menaces terroristes qui sont postées sur les espaces numériques de travail, les ENT.
Oui, alors les élèves et les enseignants ont été menacés sur les ENT de leurs établissements. Un ENT, c'est un peu l'équivalent des carnets de correspondance, c'est consultable par les profs et les élèves. Tout ça, c'est en ligne. C'est quand même fou d'espionner ça. Maintenant, les hackers, ils savent que le petit Léopold, il a parlé en classe avec le petit Zéphyr. Et les Russes, ils doivent rien comprendre, ça, le Léopold. Le Zéphyr, c'est des noms de sous-marins. Non, c'est des prénoms d'enfants parisiens du 3e arrondissement. Gamin, moi j'aurais rêvé que mon carnet de correspondance soit piraté. T'imagines ? Arnaud, j'ai vu ton carnet de correspondance. 3 en maths. Non, maman, tu me croiras jamais. En fait, c'est un coup des soviétiques. C'est le KGB qui a piraté mon bulletin. Alors, le lycée Stanislas, lui, n'a pas été impacté par ce piratage de données, vu qu'il n'y a pas l'informatique chez eux. L'appel se fait avec un chapelet. La communication prof, parents d'élèves, c'est avec des pigeons voyageurs. Et eux, ils sont là. Faites résonner les cloches. La lèpre bolchevique tente de pénétrer notre saint établissement. Théophile, va chercher le chapelet. Non, pas celui-là, l'autre, le chapelet de saucisses, en cas d'attaque de mahométans intégristes, qu'on puisse se défendre.
Arnaud Soprano, Antoine Griezmann et Thomas Pesquet sont les trois personnalités préférées des 7-14 ans, selon le sondage du journal Mickey.
Oui. Alors, à ne pas confondre avec le classement Gabriel Matzneff qui publie ses Français de 7 à 14 ans préférés. C'est pas le même classement. Donc là,
pardon. Arnaud, je suis pas bien.
Donc c'est un petit peu comme le classement du JDD, sauf que le journal de Mickey, c'est un journal sérieux par rapport au JDD. Moi, j'ai qu'une trouille, c'est que le journal de Mickey soit aussi racheté par Vincent Bolloré, juste pour se débarrasser de cette concurrence. Marquez Mickey, il aura une autre tronche, hein.
Salut les amis, c'est moi, c'est Mickey. Aujourd'hui, dans le journal du dimanche de Mickey, Aladdin, roi des voleurs, hasard ou fatalité ethnique? Donald Wild, victime de l'immigration massive des oiseaux migrateurs venus du Sahel. Arrêtons de vouloir taxer les riches, le témoignage de l'oncle Picsou. Et enfin, un portrait de Blanche-Neige. Blanche-Neige, épouse idéale. La femme à la peau blanche de tout l'univers, la peau la plus blanche de tout l'univers, qui fait le ménage et la vaisselle pendant que les hommes travaillent à la mine. Également, une interview de Titi et Gros Minet.
Oui, alors je ne suis pas Gros Minet, je suis Philippe Bilzer, chroniqueur à CNews, et j'aimerais bien qu'on arrête de se moquer de ma voix. Et moi, je suis Jean-Philippe Tanguy, je suis député Rassemblement National, je ne suis pas Titi.
Et puis pour finir, un reportage sur Pocahontas, la sauvageonne qui a dit oui à l'homme blanc venu d'Europe pour apporter la civilisation, la religion chrétienne et du savon à sa peuplade en développement.
Bah merci Mickey, et à demain Mickey.
Aïe, aïe.
À demain les amis.
Ah bah tiens, vous parliez de sous, hein. Il n'y a pas de 2 milliards, mais enfin il y a quand même 50 000 euros qui sont planqués dans le coffre. Alors venez donc les gagner. Et pour ça, vous connaissez le principe. Vous avez entendu l'alerte, vous avez donc 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Être tiré au sort et gagner donc vendredi ces 50 000 euros qui sont cachés dans le coffre. Bonne chance à tous. Il est 8h25.
Détendez-vous sur RMC avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
Et dans un instant, on va parler de notre pouvoir d'achat et pousser ensemble le caddie dans les rayons. Quels sont les prix qui baissent en rayon? Les négociations commerciales ont-elles provoqué des hausses ou des baisses de prix? Pourquoi, tiens, le chocolat est-il si cher pour Pâques? Dominique Schelcher, le patron des magasins U, est mon invité dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et pour nous accompagner véritablement dans les rayons et essayer de mieux comprendre cette histoire de prix. Quand est-ce qu'enfin ils vont baisser? Vous êtes le président, directeur général de Système U, tous les magasins U. On va parler avec vous rayon par rayon de ce qui baisse ou de ce qui ne baisse pas. On nous avait promis que l'inflation était derrière nous, que ça allait enfin se voir. Et on va aller ensemble dans les rayons. Mais est-ce qu'il y en a un où vous vous dites, tiens, si on veut vraiment des baisses de prix, on y va en priorité?
Il y a un rayon où il y a des baisses significatives en ce moment, ce sont les produits d'entretien. Et c'est la conséquence, ça, de la nouvelle loi qui a changé la règle sur les promotions dans ce rayon, qui fait qu'il y a un peu moins de promotions sur les produits d'entretien d'hygiène. Par contre, les prix des produits du quotidien dans ces rayons-là baissent du coup, jusqu'à 5%, même plus. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant.
C'est très paradoxal, c'est-à-dire que cette inquiétude qu'on avait et qu'un certain nombre de Français avaient de ne plus avoir ces promotions et donc de devoir payer au fort prix les produits d'hygiène, finalement, ça a entraîné une baisse moins grande peut-être que les méga promos, mais plus générale.
Exactement. Donc ça, c'est quand même un peu la bonne nouvelle, même si évidemment à court terme, on regrette quand même cette capacité à faire des promotions intéressantes et qui peut d'ailleurs détourner les clients vers d'autres circuits. Ça, c'est un point.
C'est quoi le maximum là du coup des promotions sur les produits d'hygiène?
C'est moins 34%, comme sur l'épicerie qui existait depuis un certain temps déjà.
Alors, on va commencer aussi par le rayon chocolat, puisque c'est Pâques bientôt et qu'on découvre que la tonne de chocolat aujourd'hui est plus chère que la tonne de cuivre. Est-ce que ça va avoir des conséquences immédiates ou est-ce que les prix sont chers aujourd'hui pour Pâques et seront encore plus chers après?
Absolument, c'est spectaculaire, hein. En fait, depuis janvier 2023, le prix de la tonne de cacao a triplé. Triplé, c'est complètement incroyable. C'est du jamais vu. Et effectivement, il y a un repère dans le monde des matières premières, c'est le cuivre, et c'est plus haut que le cuivre. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà pour expliquer aux Français? C'est des mauvaises récoltes. Donc là, c'est vraiment la suite du dérèglement climatique. au Ghana, en Côte d'Ivoire, qui sont les grands pays producteurs mondiaux. Les récoltes sont très mauvaises, il y a eu des maladies parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité, enfin il y a eu un enchaînement très négatif. Quel est l'impact ? En gros, le chocolat a déjà pris 10% l'année dernière en conséquence de ça. Nous, on a anticipé la campagne de chocolat de Pâques, donc l'impact sur le chocolat de Pâques, là, en ce moment, il est limité. Moins de 10% de hausse, il y en a un peu, mais moins de 10%.
On parle de 5%, c'est le chiffre qui est donné ce matin par RMC. 5% en moyenne de hausse sur les prix du chocolat par rapport à il y a un an.
Oui, depuis le début de l'année, mais déjà après une première hausse l'année dernière. Et donc, pour répondre à votre question, l'impact est attendu vraiment sur les tablettes dans les semaines qui viennent. Sur le chocolat de Noël, ça c'est sûr, ça il faut s'attendre à un impact fort sur le chocolat de Noël. Et alors sur Pâques 2025, probablement, si la donne ne change pas. Mais ce qui est très intéressant, à mon avis ce qui est intéressant, historiquement le cacao vient d'Amérique du Sud. L'Afrique a pris le dessus dans la production. Peut-être que ça va réinverser les choses parce que ça va un peu mieux en Amérique du Sud. Donc, à court terme, la situation est tendue, mais peut-être que dans quelques temps, voilà, ça va se rééquilibrer.
Et quand on poursuit dans les rayons, on arrive aux fruits et légumes. Et là, est-ce qu'enfin ça baisse? Alors, c'était un des points, les produits frais. On va en venir évidemment à ce qui est de la viande aussi, mais les produits frais font partie des produits qui avaient le plus augmenté. On en est où aujourd'hui?
Le plus augmenté et aussi le plus arbitré par les consommateurs derrière.
Qui avaient beaucoup renoncé.
Tout à fait, ça va un peu mieux. Par exemple, le premier rayon qui avait fortement augmenté sous le coup du prix du carburant, c'était la marée. Donc le poisson, les filets de poisson. Ça va un peu mieux, ça a baissé. Donc globalement, sur les rayons métiers du frais, comme on les appelle, ça a sensiblement baissé, ça va un peu mieux.
Mais ça a baissé... Pardon, je redemande bien les choses parce qu'on nous a parlé de la baisse de l'inflation. Mais il faut bien comprendre, l'inflation a baissé. Pour autant, les prix eux-mêmes ne sont pas revenus à des prix précédents.
Non, mais complètement. On est en train de passer sous 3%. Ça y est, on est sous 3% d'inflation sur un an.
Sur les produits alimentaires.
Sur les produits alimentaires. Si on regarde sur deux ans, on est encore à 19%. Et on ne reviendra pas au prix d'avant. Hein. Ça, il faut le redire aux Français. Parce qu'il y a des éléments inflationnistes de base. Au-delà des matières premières dont on discute un peu, il y a la question des salaires. Ils ont augmenté l'année dernière. Il y a la question de l'énergie qui pèse. Et donc, pour ce type de raison-là, on ne reviendra pas au prix d'avant. Mais à nous, bien sûr, de chercher en permanence là où il y a quand même des matières qui baissent et où on peut répercuter. J'ai parlé, par exemple, de la droguerie. Le papier, tout ce qui est papier toilette, par exemple, baisse également. Des produits à base de blé, parce que le blé a baissé, donc là, ça continue et il y aura encore des baisses sur les pâtes. Il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Donc, il y a quand même des poches où les prix baissent.
Dominique Schelcher, vous disiez tout à l'heure, ça fait partie, les produits frais, des produits sur lesquels les Français ont arbitré défavorablement. Est-ce qu'ils reviennent dans ces rayons? Est-ce que vous observez un changement dans le comportement, dans la consommation des Français?
Eh bien, moi, je vous le dis, on est en déconsommation en France aujourd'hui. On est en déconsommation. L'impact de l'inflation au départ, on en avait parlé ici, c'était d'abord de l'arbitrage. Moins de non-alimentaires, moins de produits frais traditionnels, moins de grandes marques au profit des marques distributeurs. On continue là-dedans. Moi, je n'observe pas de grandes tendances d'inversement. Et je vais même plus loin. Depuis la rentrée, on observe de la déconsommation, ça veut dire de la baisse de volume. On était à moins 4,5% de volume au mois de janvier, moins 1,2% en février. Les gens achètent moins. Et j'ai même ce chiffre qui m'avait frappé. En gros, dans tous les magasins en France, il y a 39 milliards d'articles qui passent au scanner. 850 millions ont été déconsommés l'année dernière. Il y a eu 850 millions d'articles qui sont passés en moins dans nos caisses. C'est gigantesque, ça s'accélère et je ne vois pas de tendance inverse. Et dernier chiffre très intéressant, en France en moyenne, le prix moyen acheté d'un article, c'est 2,85 €. La dernière tendance des panélistes que j'ai encore vu hier, les produits de plus de 3 € sont en baisse de volume aussi. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on bloque. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plafond dans
la
consommation.
Il y a un plafond dans la consommation.
Qui s'est établi autour de 3 €.
Exactement. Et il y a moins de volume parce qu'il y a une grande partie de Français qui ne s'en sort pas avec cette inflation. Il faut le rappeler, il faut le dire, il faut l'avoir
en
tête.
Vous pensez à quel genre de produit avec cette barre des 3%? Des 3 €, pardon.
Par exemple, les produits de beauté sont souvent au-delà de ce prix-là. Mais même, ça va plus loin, très intéressant. On dit toujours, et dans les déclarations des clients, ils disent « oui, mais j'achète beaucoup de produits en promotion ». Mais même la promotion est en difficulté. Il y a des clients qui commencent à dire « mais moi, finalement, acheter un grand lot qui va durer dans mon placard, qui est plus que 3 euros, etc., ça m'intéresse moins qu'avant. Ce que je veux, c'est le prix bas du produit que j'achète tout le temps dans le rayon. Et c'est bien pour ça qu'ils choisissent aussi U, parce qu'ils ont constaté, alors qu'ils regardent les étiquettes, qu'on est très bien placé en prix.
Des consommations, vous dites et ça ne change pas. C'est-à-dire que quand vous m'expliquez que les produits frais, le poisson, à un moment c'était trop cher, on n'y allait plus. Les prix reviennent légèrement à la baisse, pour autant les consommateurs ne reviennent pas. Non. Ils y ont renoncé. D'une manière quasi définitive, si je vous dis. En tout cas durable.
Pour l'instant, ça a l'air durable. Moi, j'observe les chiffres tous les mois. Pour l'instant, c'est durable. Je n'observe pas de tendance dans l'autre sens. Peut-être un petit signe positif, les produits plaisir. Les produits plaisir, il y a des petits signaux qu'on s'y intéresse un peu plus. Le produit plaisir, c'est le chocolat. Le chocolat de Pâques marche très bien en ce moment.
Malgré effectivement ces 5% de hausse, qui sont donc au-dessus de l'inflation alimentaire.
Tout à fait. J'ai l'impression que le chocolat peut être un peu le doudou des grands. On se fait plaisir dans cette période qui est quand même pas mal anxiogène. Les gâteaux, quelques alcools aussi fonctionnent un peu mieux. Donc, une petite lueur sur les produits plaisir, mais après, fondamentalement, les gens ont pris de nouvelles habitudes. Et mon hypothèse aujourd'hui, c'est que ces habitudes vont durer. On achète un peu moins, peut-être une espèce de sobriété qui s'installe, parce que beaucoup de gens disent aussi, mais est-ce que finalement j'ai besoin de consommer toujours autant? Est-ce que j'ai besoin
c'est
de changer
C'est un nouveau rapport à la consommation.
C'est un nouveau rapport à la consommation qui s'installe, et probablement durablement, comme vous venez de dire.
Dominique Schelcher, vous parliez aussi à l'instant de l'alcool. Vous avez vu ces magasins Carrefour qui vendent des bouteilles de Bordeaux à 1,66 €. Vous faites ça, vous? C'est une bonne idée ou une mauvaise idée?
C'est pas une bonne idée en pleine crise agricole, incontestablement. Et là, je prends le contre-exemple. On fait fabriquer des vins pour la marque U, notre marque distributeur. On fait ce qu'on appelle des assemblages. Eh ben, on accepte pour ces produits-là d'acheter un peu plus cher pour couvrir les coûts de production des viticulteurs. Et c'est ça qu'il faut faire. Et le vin à la marque U, il est sur des engagements de ce type-là. On achète pour
c'est
couvrir.
C'est du vin français?
Et c'est évidemment du vin français. Les produits sont essentiellement français à plus de 80%, sauf les produits comme la feta ou des fromages ou des charcuteries italiennes ou grecques. Voilà.
Parce que c'est marqué dessus. Dominique Schelcher, justement, sur le fait que ce soit marqué dessus ou pas, est-ce que vous avez eu davantage de contrôle dans vos rayons? C'était l'une des promesses de Bercy à la crise des agriculteurs, dire qu'ils contrôleraient davantage l'origine, la provenance des produits. Est-ce que vous les avez vus débarquer dans vos magasins?
Je confirme complètement la multiplication des contrôles. Déjà dans notre centrale d'achat, oui, et également en magasin, aux quatre coins de la France, sur ce qu'on appelle la francisation. Est-ce que ce qui est dit sur l'emballage est confirmé dans la réalité? Globalement, les contrôles chez nous se sont plutôt bien passés. Mais oui, je confirme.
Il n'y a pas une mauvaise surprise?
Et il n'y a pas eu de mauvaise surprise chez nous. Et il y a eu deux types de contrôles. Il y a eu les contrôles officiels des DGCCRF. On a eu beaucoup de contrôles, entre guillemets, des agriculteurs eux-mêmes aussi qui sont venus voir. Et là, par contre, il y a des choses intéressantes qui se passent. Par exemple, on a eu un reproche par certains agriculteurs, c'est « Mais pourquoi vos pâtes, elles sont avec du blé d'origine européenne ?» Mais ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, en France, comment on fabrique une pâte? On fabrique une pâte avec du blé dur. La France produit uniquement 35% du blé dur nécessaire à sa consommation de pâtes sur toute une année. Donc qu'est-ce qu'on fait? On importe tous, nous et les autres, 70% du blé dur.
On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Et donc, par exemple, aussi pour lutter et trouver des solutions dans cette crise agricole, il faut se poser aussi les questions de qu'est-ce qu'on doit reproduire en France pour... être plus indépendant.
Ça, c'est pour les pâtes, mais pour ce qui est notamment des produits transformés, cuisinés. On a beaucoup parlé du fameux poulet ukrainien, ce poulet sur lequel les droits de douane ont considérablement baissé et qui ont fait venir en France et partout en Europe, du poulet beaucoup moins cher que le poulet qui est produit en France, à la fois pour des raisons de salaire, mais aussi pour des raisons de qualité et notamment de durée de vie du poulet, de maturité du poulet. Ce poulet, il représenterait aujourd'hui 50% du poulet consommé en France, notamment dans les nuggets, dans les cordons bleus, dans tout ce qui est produits transformés. Est-ce que là-dessus aussi, vous dites, on va s'engager à ce que, y compris sur les produits transformés, ce soit du poulet d'origine France?
Mais bien sûr, mais nous, on a pris un engagement depuis 2019 chez Système U sur notre marque U. On fait la transparence des origines. Je prends un exemple. Si la compote est pomme-poire, si la pomme vient de France, évidemment, on l'écrit origine France. Et si la poire, parce qu'on n'a pas, sur cette saison-là, trouvé de poire suffisamment en France et qu'elle vient d'Italie, on écrit origine Italie. Donc nous sommes pour la transparence complète des origines et la symétrie. Et ça, ça conduit à deux choses. Un, améliorer nos recettes pour dire on va davantage vers l'origine France. Et puis, ça bouge le comportement des consommateurs qui recherchent l'origine France et qui disent ben non, là, ça m'intéresse moins. Donc nous sommes pour ça. Et donc je soutiens le projet de la ministre Olivia Grégoire, Origine Info, qui a pour
une
but.
Une sorte d'origine score, comme origine il y a le Nutri-Score,
qui conduirait d'ici, allez, on va dire mai, un logo pour montrer au quotidien un peu l'équivalent du Nutri-Score, l'origine française ou pas. Mais nous, on est déjà très engagés. Et sur la volaille, je confirme ce que vous dites, la moitié de la volaille vendue en France, la moitié est d'origine étrangère. Là aussi, pourquoi il n'y a pas assez de volaille en France ? Donc, posons-nous les bonnes questions. Et nous, on a des engagements très fermes sur la volaille fraîche. Elle est d'origine française, bien évidemment.
L'agneau Pascal, là je voudrais comprendre, quand on regarde le cours de l'agneau, on se rend compte qu'il est vendu 10 euros le kilo s'il vient de Nouvelle-Zélande, il est vendu 24 euros s'il vient de France. Moi je voudrais comprendre comment il est possible qu'un agneau qui a traversé toute la planète soit quand même vendu 14 euros de moins le kilo. Comment c'est possible ?
C'est pas nouveau, c'est un phénomène historique depuis toujours. Nous ne produisons pas assez d'agneaux en France pour couvrir la saison de consommation.
Non, mais donc on importe. Le produit qui vient de dizaines, vingtaines, peut-être une centaine de kilomètres au maximum, il est vendu 24 euros le kilo. Celui qui a traversé la planète, il est vendu 10 euros le kilo.
Mais quelle est la différence ? Ce sont des conditions de production. En Nouvelle-Zélande, ce sont de très, très grandes exploitations massives avec.
Des gigafermes.
Des fermes très très importantes, mais en plein air, etc., mais où ils peuvent écraser leurs coûts de production. En France, c'est bien connu, nos fermes sont souvent plus petites, les coûts de production sont donc un peu plus importants, et donc ça, c'est un sujet aussi qu'il faut travailler pour
réduire l'écart. Mais là, vous faites quoi, vous, Dominique Schelcher, à la tête de Système U, vous dites quoi ? Vous dites, bon, bah, tant pis, on va faire payer l'agneau plus cher, mais il viendra de France, ou est-ce que vous choisissez quand même d'aller le chercher en Nouvelle-Zélande ?
Mais on en cherche quand même en Nouvelle-Zélande, parce qu'on ne refuse pas de vendre du produit. Par contre, dans la plupart de nos régions, dans nos prospectus, on a mis en avant l'agneau français. Et malheureusement,
donc, en fait, vous dites aux consommateurs, c'est à vous de faire aussi le boulot.
Absolument.
Est-ce que vous êtes prêt à payer 24 euros le kilo pour avoir de l'agneau français, ou est-ce que vous êtes trop ric-rac, vous allez prendre l'agneau qu'on vous propose
et
de Nouvelle-Zélande ?
Il y a un petit risque. Quand on assume de mettre dans notre prospectus, dans la plupart de nos régions, l'agneau d'origine française, on sait qu'on risque d'en manquer parce qu'il n'y en a pas assez en production. Mais donc, vous voyez, on est prêt à l'assumer et à dire, bah oui, malheureusement, passez votre commande, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, on fait nos meilleurs efforts, mais il n'y a pas forcément les quantités.
Dominique Schelcher, je vous ai souvent reçu ici à des moments de hausse du carburant et vous faisiez le boulot, vous les distributeurs, en disant bon, on est prêt à vendre éventuellement à prix coûtant, le gouvernement vous avait même demandé de vendre à perte et puis finalement il y a eu des aides. On l'entend, désormais les aides c'est fini. Le mot rigueur est prononcé par le gouvernement. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Le déficit est considérable, bien plus important qu'il n'imaginait. Le fait que vous ayez été, vous aussi, aux avant-postes, des aides différentes qui ont été mises en place. Il y avait le fameux panier anti-inflation. Il y avait les aides à la pompe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, on bascule dans une nouvelle ère et vous allez vous-même en être les témoins ?
Je suis d'accord qu'on bascule dans une nouvelle ère. Je suis chef d'entreprise. J'ai une responsabilité de mener, de diriger mon groupe. Quand je vois le contexte, évidemment, du déficit, ça me préoccupe. Et on ne peut que aller dans le sens d'une gestion et d'une réduction de ce déficit. Et je vais vous dire, Système U est un groupe qui se porte plutôt bien, mais on prépare l'avenir. Et avec l'équipe de direction de la coopérative, on a décidé, nous aussi, par exemple, de chercher des économies.
Où ça
dans nos frais de fonctionnement interne. Pourquoi ? Parce qu'on sent que l'économie est en train de ralentir. Je vous ai parlé de déconsommation. On se prépare, nous aussi, à la suite. Donc, que le gouvernement prenne des dispositions pour réduire le déficit demain, trouver des solutions, moi, en tant que chef d'entreprise, je peux que soutenir cette orientation-là.
Qui a gagné la bataille entre les industriels et les distributeurs ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une crise agricole ces derniers jours et qu'il y a aujourd'hui une partie prenante de cette chaîne alimentaire qui ne s'en sort pas, c'est le monde agricole. Et donc lui, il faut travailler, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs actuellement ardemment.
Oui, mais alors attendons, pour améliorer. Mettons-le de côté et parlons de ce qui s'est passé quand même dans ces fameuses négociations commerciales. On a l'impression de les avoir suivies quasiment au jour le jour.
C'est vrai.
Un véritable bras de fer entre vous, les distributeurs, et les très grandes marques, des industriels de l'agroalimentaire notamment. Est-ce qu'à la fin, les augmentations considérables qu'ils demandaient, vous qui disiez non mais ils nous demandent trop, qui gagne à la fin ?
Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un quart des produits qui baissent et le reste qui est aux alentours de...
Ça veut dire qu'il y en a trois quarts qui montent ?
Il y en a trois quarts qui montent, mais très légèrement. Et moi, je vous répète ce que j'ai toujours dit ici, c'est que du côté des grandes multinationales avec qui on a eu parfois des discussions difficiles, je pense que pendant cette période où les chiffres d'affaires ont été relativement importants et soutenus pour elles, elles n'ont pas forcément assez joué le jeu de l'aide des Français sur cette inflation. Et on le voit, et on suit les résultats qu'elles font et qui sont importants. Je parle des multinationales, encore une fois. Elles auraient pu parfois
vous
jouer...
Vous parlez de Danone, de Coca,
exactement,
de Nestlé.
D'accompagner davantage les Français. Et nos désaccords étaient souvent là-dessus. On ne comprenait pas le niveau de hausse demandée. On disait, expliquez-nous-le, faites la transparence là-dessus. On ne l'a pas toujours obtenu. Et c'est ça qui a parfois créé de la friction.
Est-ce que les consommateurs ont arbitré? C'est-à-dire, est-ce que dans ce combat, le fait que le Coca soit passé trop cher, le fait que entre un yaourt Danone très cher et un yaourt Super U ou Leclerc...
Mais complètement.
Les consommateurs choisissent désormais vos marques.
Le produit U est 25 à 35% moins cher, mais... Les Français ont choisi, arbitrent, délaissent les grandes marques et surtout dans les études, ce qui est très intéressant, disent même maintenant, mais pour nous, ce sont des produits équivalents qui sont qualitativement très bons et les Français ont raison de faire ces choix-là.
Sur le CETA, vous l'avez vu, les sénateurs ont dit non. Le CETA, c'est cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Est-ce que ça aura des conséquences si ce vote est confirmé ?
Avec le Canada, moi, simplement ce que je dis, c'est qu'il faut qu'un accord soit simplement équilibré. C'est-à-dire que si au bout du compte il y a des échanges,
c'est la fameuse question des clauses miroirs.
Voilà,
c'est-à-dire
c'est
ce qu'on
ça.
Impose comme norme aux Européens, on doit l'imposer aussi de l'autre côté.
Fondamentalement, moi, on ne peut pas être contre des échanges internationaux. C'est le monde économique aujourd'hui. Par contre, je comprends les agriculteurs. Il faut les bonnes contreparties. Et après, les agriculteurs sont aussi contents, évidemment, d'exporter. Mais encore, faut-il qu'ils aient...
Mais est-ce qu'il y aura des conséquences ? Est-ce que le CETA a des conséquences sur vous dans les importations que vous faites depuis le Canada ?
On en fait... Du Canada, pas forcément trop beaucoup. Il y a un point particulier, c'est la graine de moutarde. Beaucoup de la graine de moutarde, par exemple.
Et on se souvient évidemment du moment où il y avait une pénurie de graines de moutarde.
Voilà. Donc oui, il y aura sans doute des impacts dans un sens ou dans un autre. Moi, je suis pour des accords équilibrés et avec les bonnes contreparties pour aussi nos agriculteurs.
Merci Dominique Schelcher, président, directeur général de Système U. Et vous nous le dites effectivement ce matin, c'est aussi cette question de la déconsommation qui
Absolument.
Est au jour 8h52. Et tout de suite, les grandes gueules sur RMC avec vous, Alain Marchal. Quel est le programme ?
Eh bien, dans les GG, dans les grandes gueules, ma chère Apolline, nous sommes en direct du salon Global Industrie, qui est à Villepinte, avec Flora Guebali, entreprenant la transition écologique, Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, Antoine Diers, qui est consultant auprès des entreprises. On parlera, bien sûr, de cette industrie française qui, aujourd'hui, retrouve, on l'espère, la croissance et surtout, qui cherche de la main-d'œuvre parce que, aujourd'hui, les projets sont là. Reste à trouver les bras pour les mettre en application. Et puis, au menu des GG aussi, aujourd'hui, la démission du proviseur du lycée Ravel menacé de mort. Est-ce que c'est la faillite de l'État ? Et on reparlera bien justement des uniformes dans les écoles de Puteaux. Les uniformes n'étaient pas made in France, ils venaient du Bangladesh. Est-ce que c'est la honte ? En même temps, il fallait que les familles ne payent pas trop cher. Voilà nos sujets de discussion dans les GG au 32-16.
A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour Les Grandes Gueules.